Un match à rebondissement pour le derby romand de Ligue Nationale A de hockey sur glace, mené au score Gotteron a égalisé à une poignée de secondes de la fin du match. Le verdict des responsables de l'attentat de Marrakech est tombé, c'est la peine de mort pour le principal accusé. Trois Tessinois avaient perdu la vie dans cette attaque à la bombe, c'était en avril. Il est déçu, le PLR, de ses résultats aux élections fédérales, mais il ne change rien, en tout cas pas avant le départ de Fulvio Pelli de la présidence. Des stratus, puis un ciel bien ensoleillé, c'est le menu météo de demain. Il fera 13 degrés au maximum, prévision complète en fin de journal. Le derby romand de Ligue Nationale A de hockey sur glace n'en finit donc pas de rebondir. Mené au score, Fribourg-Gotteron, le leader au classement, a égalisé à la toute dernière seconde, ouvrant la voie aux prolongations. Une sacrée fin de match, Alain Thévaux.
Oui, Fribourg-Gotteron qui était mené 3-1. C'est Rosa dans un premier temps à 4 minutes du terme qui a réduit le score à 3-2. Et puis Gamache, ça s'est vraiment joué à un dixième voire centième de seconde. Simon Gamache qui égalise avant la lumière de la sirène finale. 3 partout. Palabre, Auvernais, Chris Maxorley et Genève Servette qui a regagné les vestiaires. Maintenant, tout le monde est présent, mais la glace nécessite un nettoyage. Donc beaucoup de rebondissements, de contestations ici au Vernet. 3-3 tout à l'heure, les deux équipes romandes vont disputer la prolongation.
Et on vous retrouve en fin de journal pour un pointage sur le score de ce match. C'est la peine de mort pour le principal accusé dans l'attentat à la bombe qui avait ravagé un café du centre de Marrakech. C'était le 28 avril dernier. 17 personnes, dont 3 Tessinois, avaient trouvé la mort. La peine de mort donc pour Adil Al-Atmani et la prison à perpétuité pour l'un de ses complices. La correspondance à Tanger de Thibaut Cavaillès.
Le procureur du roi avait requis la peine capitale pour 2 des 9 personnes jugées. Finalement, le tribunal antiterroriste de Salé, près de Rabat, n'aura suivi que pour le poseur de la bombe, Adil Al-Atmani. Verdict donc plus dur que ce qui avait été réclamé par les avocats des parties civiles ainsi que par certains proches des victimes présents au cours de ce procès. Il se serait contenté de la réclusion à perpétuité, peine d'ailleurs à laquelle a été condamné l'un des complices. Dès son arrestation, Adil Al-Atmani, pas encore la trentaine, vendeur de chaussures à sa fille au sud de Casablanca, avait reconnu être l'auteur des faits. Mais il s'était ensuite rétracté, clamant son innocence. Hier, lors de l'énoncé du juge, sa sœur présente s'est levée à crier avant de s'évanouir. Atmani condamnée à la peine capitale, la question est de savoir maintenant si elle va être effectivement appliquée. La peine de mort au Maroc est toujours inscrite dans le code pénal mais n'est plus pratiquée depuis 20 ans. On se dirige même dans le royaume vers un arrêt définitif de ce type de condamnation. Thibaut Cavaillès, Radio Suisse Romande, à Tanger.
La Syrie a connu une de ses journées les plus violentes depuis des semaines. Les forces de sécurité ont tiré à balles réelles pour disperser des manifestations réclamant une zone d'exclusion aérienne au-dessus du pays. En tout, 36 personnes ont été tuées. L'OTAN emboîte le pas du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Alliance Atlantique a décidé de mettre fin à compter du 31 octobre à son opération en Libye. Elle a toutefois affirmé vouloir rester aux côtés du peuple libyen en l'aidant à réformer les institutions de sécurité et de défense. Et parallèlement, le procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, a affirmé avoir des contacts informels avec Saif al-Islam Kadhafi via des intermédiaires. Le fils de l'ancien leader libyen chercherait à négocier sa reddition à la Cour qui le recherche pour crimes contre l'humanité. À Bruxelles, Pierre Benazé.
Saif al-Islam et Abdallah al-Senoussi étaient tous deux dans la poche de Bani Walid jusqu'à sa chute. Et depuis, les rumeurs vont bon train, affirmant d'une part que Senoussi serait dans le désert entre le Niger et le Mali, et d'autre part que Saif, craignant pour sa vie, chercherait à se rendre. Cette rumeur-là est par défaut confirmée par Luis Moreno Ocampo. Le procureur de la Cour pénale affirme lui avoir fait savoir qu'il aurait le droit d'être entendu par la Cour et serait tenu pour innocent jusqu'à preuve du contraire. Les contacts du procureur avec Saif al-Islam Kadhafi sont décrits comme informel, via des intermédiaires, mais le communiqué du procureur, lui, est bien officiel. Il fait partie de l'offensive diplomatique de la CPI pour rappeler aux États africains, signataires du statut de la Cour, qu'ils doivent arrêter et livrer les deux hommes. Seuls 5 États africains ne font pas partie de la Cour pénale internationale et le procureur confirme que des mercenaires chercheraient à y conduire Saif al-Islam. Pierre Benazet, Radio Suisse Romande, à Bruxelles.
Un homme a ouvert le feu cet après-midi contre l'ambassade des États-Unis à Sarajevo. Un membre de la sécurité de la représentation a été touché. Le tireur a quant à lui été blessé par une unité spéciale de la police et arrêté. La police qui n'a pas révélé son identité, mais la chaîne publique FTV a indiqué qu'il s'agissait d'un islamiste appartenant au mouvement wahhabite local, une branche intégriste de l'islam. La majorité des Suisses ne souhaite pas que l'UDC décroche un deuxième siège au Conseil fédéral. C'est le résultat d'un sondage réalisé par l'Institut GFS à Berne. Selon lui, 42% des personnes interrogées sont pour, 47% contre et 11% sont incertaines. Deux tiers des sondés se prononcent en revanche pour un maintien d'Evelyn Widmer-Schlumpf au gouvernement. Le parti libéral radical est déçu de son recul aux élections fédérales. Devant la presse ce soir, la formation a pourtant affirmé ne pas vouloir bouleverser sa stratégie, en tout cas pas avant le départ de Fulvio Pelli de la présidence. Ce sera en avril prochain. La course à la succession du Tessinois s'ouvrira d'ailleurs le 8 décembre et la relève ne sera pas difficile à trouver, affirme la présidente du parti radical vaudois, Christiane Lusier.
Il y a bien sûr des personnalités, on pense en particulier à nos conseillers nationaux puisqu'ils sont en phase directe avec la politique fédérale. Il y a nombre de nouveaux élus conseillers nationaux qui ont fait des scores magnifiques, hein. Par exemple Isabelle Moret dans le canton de Vaud, Olivier Français, mais il n'y a pas encore de discussion qui a été menée à ce jour.
Est-ce que ce serait l'heure pour qu'une femme reprenne la présidence ?
Alors évidemment que le nom de Karine Keller-Souter est sur toutes les lèvres. C'est vrai que une femme compétente, une femme brillante qui a de la carrure, ce serait excellent pour le parti, non seulement en termes d'image, mais si on a vraiment une personnalité comme celle de Karine Keller-Souter. Donc pour moi, aujourd'hui, tout est ouvert. Bien sûr que j'accueillerai avec plaisir une candidature féminine.
Des propos recueillis par Pierre Yeni. La verte Adèle Torrance est à la disposition de son parti pour remplacer Uli Leuenberger à la présidence. Elle affirme pourtant que la direction ne peut pas être uniquement romande. La conseillère nationale vaudoise plaide pour un renouveau après les élections fédérales de la semaine dernière. L'idée de rendre public l'argent investi dans les campagnes précédant les votations fédérales divise. La commission des institutions politiques du National propose de justesse au plénum de rejeter une motion du Conseil des États qui demandait une base légale rendant obligatoire la publication des sources de financement des campagnes. Vice-président de la commission, le Vert-Genevois Antonio Hodgers ne cache pas son irritation.
Un profond agacement à l'égard quand même des partis bourgeois et partis de droite qui refusent systématiquement tout projet allant dans le sens de la transparence du financement, que ce soit le financement des partis politiques. Ici, on parlait du financement des campagnes de votation. On voit qu'il y a des millions, des dizaines de millions qui sont investis. Il nous paraît indispensable que les citoyennes et les citoyens sachent qui paye. Qui est derrière cet argent? Qui est derrière ces panneaux publicitaires nombreux? Et malheureusement, encore une fois, la droite ne veut pas rentrer en matière, même sur une proposition qui était extrêmement consensuelle, celle que le Conseil des États nous a envoyée.
Des propos recueillis par Roger Guignard. Tous les électeurs genevois auront la possibilité de voter en ligne lors du scrutin cantonal du 27 novembre. 240 000 personnes sont concernées. Il s'agit du 20e scrutin en ligne depuis 2003 à Genève. Le président et deux membres du conseil d'administration du réseau Santé Vallée démissionnent avec effet immédiat. Une semaine après le rejet par le peuple de la loi sur les établissements et les institutions sanitaires, ils ont annoncé cet après-midi avoir remis leur mandat au Conseil d'État. Ils espèrent que l'hôpital du Vallée pourra ainsi retrouver la sérénité nécessaire. Yves Terrani a demandé à Olivier Deriva si ce départ n'aurait pas dû intervenir avant.
Avant, la situation était quelque peu différente. Nous avons cru à l'entreprise que nous avons conduite. Nous n'avons certainement pas à rougir du bilan technique et médical de cette entreprise. Il est aussi difficile de quitter un établissement comme cela. C'est un acte qui peut laisser des traces, ça peut déstabiliser. Aujourd'hui, nous regardons vers le futur et nous faisons pour le futur une œuvre de pacification. C'est vraiment le propos que nous avons. Nous avons pris cette décision en toute indépendance, spontanément. C'est pas quelqu'un qui nous l'a dicté. Nous voulons vraiment laisser champ libre au Conseil d'État de restaurer la confiance. C'est vraiment la seule chose qui nous motive aujourd'hui.
Il est poète, mais c'est aussi un ancien ministre. Le travailliste Michael D. Higgins a remporté, selon toute vraisemblance, l'élection présidentielle en Irlande. Son adversaire, l'homme d'affaires Sean Gallagher, a reconnu sa défaite. Les résultats officiels sont attendus demain. Le plus célèbre théâtre de Russie, le Bolchoï, a rouvert ses portes ce soir. Après 6 ans de travaux, une soirée de gala retransmise en direct dans 36 pays marquait l'événement. Le président russe Dmitri Medvedev a rendu hommage à l'une des plus grandes images de marque de son pays. Et on retourne au hockey sur glace avec le match qui oppose Fribourg-Gottéron à Servette. On vous retrouve à l'Intévo.
Et après 5 minutes de prolongation, c'est toujours 3-3 entre Genève Servette et Fribourg-Gotteron. C'est dire que le verdict va se jouer, va se décider au tir au but. Fribourg-Gotteron qui revient de loin, qui était mené 3-1 et qui a égalisé à la dernière seconde du match. Sur les autres patinoires, Langnau s'est imposé à Bienne 2-1. Berne en a fait de même à Kloten 3-1. Lugano a battu Davos 3-0. Et succès de Zurich face à Rapperswil 5-1.
Merci Alain Thévaux. En football enfin, les joueurs de Neuchâtel-Xamax sont sur le point d'être payés. Le capitaine des Rouges et Noirs précise que l'argent a été transféré de Moscou en Suisse, mais l'établissement a ensuite bloqué cet argent. Une solution a finalement été trouvée avec l'établissement bancaire. Les salaires devraient arriver lundi. On fait encore un détour par la bourse suisse qui a clôturé en hausse ce soir, plus 0,51%. À Wall Street, le Dow Jones a pris 0,18% et le Nasdaq a perdu 0,06%. On termine avec la météo avec Sébastien Dupéré.
La Suisse se trouve en bordure d'une dépression centrée sur la Méditerranée. Elle entraînera ces prochains jours des passages nuageux parfois denses, surtout le long du Jura. Mis à part ça, le temps s'annonce assez ensoleillé jusqu'à mardi soir où une perturbation nous abordera. Demain, des bancs de stratus se formeront en début de matinée sur le plateau avec un sommet aux alentours de 700 mètres. Ils se dissiperont en bonne partie en début d'après-midi. Au-dessus de cette grisaille et dans les autres régions, le temps sera bien ensoleillé. Les températures à l'aube, 5 au nord des Alpes, 2 en plaine du Rhône. L'après-midi, entre 13 sur le plateau et 17 en Valais. Dimanche et lundi, les conditions resteront agréables avec un soleil assez présent, malgré toujours des passages nuageux sur l'ouest du pays. Les températures se maintiendront entre 13 et 16 degrés l'après-midi. Mardi, le temps s'annonce encore bien ensoleillé, mais dans l'après-midi, une perturbation abordera le pays. Elle devrait donner quelques pluies en soirée, selon Météo Suisse.
La météo avec Comparis, service de comparaison de primes d'assurance maladie, comparis.ch.
La ligne de cœur, ça continue jusqu'à minuit ce soir, comme tous les jours de la semaine, et quelques messages qu'on va vous lire expressément.